Activité 16. Document 1.
Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle de la caméra cachée dans le journalisme. Un outil qui fait polémique. Régis Philippe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre sur l'histoire de cette méthode. Vous y évoquez notamment que la radio a, en quelque sorte, servi de terrain d'expérimentation pour la caméra cachée. Comment est-ce possible ?
Avant la caméra cachée, il y avait le micro caché. À la fin du 19e siècle, certains journalistes écrits pratiquaient déjà l'infiltration. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques L'Enfant utilisait un micro caché dans son studio pour faire parler les soldats. Il avait remarqué que, dès que la lumière rouge de l'enregistrement s'éteignait, les soldats étaient plus honnêtes et osaient être critiques. Après la guerre, il a lancé une émission humoristique, Candide Microphone, basée sur ce concept, qui a connu un grand succès et inspiré la création de Candide Caméra à la télévision.
Comment la caméra cachée est-elle passée d'un usage humoristique à un outil d'investigation ?
Dès les années 60, quand certains journalistes, déjà adeptes de l'infiltration, ont utilisé la caméra pour exposer des vérités, notamment avec des scandales comme le Watergate.
Cette méthode n'est pas acceptée partout pareil. Pourquoi ?
La différence tient surtout aux lois. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la liberté d'expression est fortement protégée. Les journalistes peuvent l'utiliser dans l'intérêt public. En France et en Suisse, la protection de la vie privée est prioritaire, ce qui suscite davantage de réticence envers la caméra cachée.
Document 2.
En plastique ou en carton, les emballages sont un fléau des temps modernes, notamment à cause des ventes sur Internet qui continuent de se développer. Les emballages génèrent des quantités incroyables de déchets. Les réglementations européennes ou françaises fixent des objectifs de recyclage ambitieux qui, pour l'instant, ne sont pas tenus. Aujourd'hui, 65% des emballages en plastique pourraient être recyclés, mais seulement 23% le sont réellement.
Les bouteilles sont les déchets plastiques qui ont le meilleur taux de recyclage. Une sur deux sert à refaire du plastique. Mais le reste des déchets plastiques ne suit pas. Seulement 16% sont collectés. Donc, le but est d'améliorer cette collecte, mais aussi de changer les emballages. De nombreuses start-up françaises planchent sur la question et proposent des alternatives innovantes comme des emballages en marc de raisin ou en peau d'oignon. Ces nouveaux matériaux se retrouvent déjà sur le marché. Cependant, comment assurer qu'ils soient recyclés efficacement ? La directrice du Salon du Packaging Durable à Paris, Fatou Varger, s'interroge.
Le packaging durable est une vraie tendance. Les fabricants intègrent l'impact écologique dès la conception. Mais la question du recyclage des nouveaux matériaux reste complexe. Parfois, ils sont plus naturels, mais qu'en fait-on en fin de vie ? Il y a encore des progrès à faire dans nos centres de tri pour repérer et traiter ces emballages innovants.
Ces innovations sont prometteuses. Mais pour répondre aux ambitions des lois sur l'économie circulaire, il faudra aussi améliorer les infrastructures de tri et de recyclage.
Document 3.
Aujourd'hui, direction la Bretagne et la ferme de Bernard Tomasi. Ce jeune agriculteur y cultive une variété unique de camélias, des Camellia sinensis, des fleurs à la vocation plus gastronomique que décorative. En effet, les feuilles de cette variété de camélia servent à produire du thé, une culture encore rare en France.
Bonjour, je m'appelle Bernard Tomasi. Je suis agriculteur à La Prairie, une ferme d'environ 5 hectares située dans une zone naturelle préservée. Nous y cultivons principalement du thé, mais aussi des petits fruits, et organisons des ateliers et des visites pédagogiques. J'ai planté mes premiers théiers il y a 5-6 ans. Avant ça, sur 4 hectares de la ferme, il y avait des pâturages pour des vaches laitières. J'ai commencé avec 3 plants de Camellia sinensis, puis j'en ai planté 10, 100, 500, et maintenant nous en avons 1000. À l'origine, il s'agissait d'une initiative militante. Je voulais introduire des cultures pouvant être implantées ou réimplantées en France pour réduire l'empreinte carbone. Le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. Et d'habitude, il parcourt des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à nous. Produire localement du thé permet déjà de limiter cet impact environnemental. L'idée est aussi venue de la proximité de la ville de Nantes. Le théier est un camélia et Nantes a une longue histoire d'acclimatation du camélia en France, qui remonte à 2 siècles. On peut d'ailleurs en admirer de superbes haies centenaires au Jardin des Plantes.